Levez-vous, levez-vous. Enfants de France et d'autres contrées, enfants de l'amour, jeune auditeur de Nova, entre d'un plus près de toi, comme on mène la chèvre au bouc, comme le mouton va à la tonte, comme la poule va au coq, comme l'enfant paraît. Avide de sensations, avide de sentir, de goûter, de palper de ses jeunes doigts. Enfin, auditeur de Nova, puits d'amour infini, don éternel de toi-même à autrui, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et toi, Atmen Khalif, jeune enfant courant dans les Aurès, élevé à Albi par la catéchèse. Et toi, Thomas Baumgartner, jeune athée, jeune impie, Dieu t'aime quand même. Et toi, Tito, Tito, homme dont les mains courent nues sur la guitare saillante, fais de ton don un acte d'amour. Et tous ensemble, entrons dans l'émission d'Edouard Boer comme une prière, comme un acte d'amour, entrée top générique.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baer.
Bonjour Thierry Paré.
Salut.
On va faire les infos.
On peut commencer par
en attendant
ça.
Attendons que Père Edouard revienne en studio.
Voilà,
ah, le voilà, il revient.
Il commence. C'est le générique.
J'étais à la messe, là.
Salut. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un enfant de 5 ans et demi enlevé par son père à Clermont-Ferrand. C'est la 20e fois qu'une telle alerte est enclenchée en France. Jusqu'à présent, elle a permis à chaque fois de retrouver les enfants enlevés sains et saufs. Une militante socialiste de Marseille a déposé plainte dans un commissariat de la cité phocéenne à l'encontre du Parti socialiste et de la Haute Autorité des primaires pour abus de confiance après que Manuel Valls ait apporté son soutien à Emmanuel Macron. Et alors que Manuel Valls a décidé de voter pour le candidat du mouvement En Marche dès le premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon, lui, a de nouveau appelé Jean-Luc Mélenchon à se ranger derrière lui. En meeting hier soir au Havre, le candidat de la France Insoumise a refusé de retirer sa candidature en faveur du candidat du Parti Socialiste. Le secrétaire national du Parti Communiste, Pierre Laurent, a lui appelé à une rencontre dans les prochains jours avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.
Dis non, la ligne de Benoît Hamon, ça peut pas juste être « c'est pas gentil, c'est pas bien, vous aviez dit que vous le faisiez pas, ça nous fait pas rêver ça, enchaînez !»
Pour la troisième soirée consécutive, la communauté chinoise de Paris a manifesté dans les rues de la capitale devant l'hôtel de ville, cette fois, toujours pour dénoncer la mort d'un père de famille tué à son domicile dimanche dernier par un policier de la BAC dans le 19e arrondissement. Comme pour les deux rassemblements précédents, il y a eu des affrontements avec la police, violents, une voiture a été incendiée, des vitrines ont aussi été brisées. Il est quelle heure? Il est 2h du matin en ce moment en Guyane, autrement dit les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont sans doute en train de dormir, si du moins ils arrivent à trouver le sommeil. Ils sont arrivés en Guyane hier dans la soirée vers 17h, 20h dans la métropole, pour tenter de trouver une issue à la crise qui secoue le territoire français d'Amérique du Sud depuis maintenant plus d'une semaine. Vision d'horreur pour des habitants de l'île des Célèbes en Indonésie. Le corps d'un homme de 25 ans, porté disparu depuis dimanche dernier, a été retrouvé entier, mais dans le ventre d'un piton de 7 mètres. Donné pour mort, ayant dérivé sans nourriture ni eau sur son petit bateau pendant près de 2 mois jusqu'à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rolando Mongos, jeune pêcheur philippin de 21 ans, a pu entrer à Manille. Il a été secouru. Il a survécu grâce, c'est ce qu'il raconte, à l'eau de pluie et à la mousse qui avait poussé sur la coque de son bateau. Il a juré ne plus jamais remettre les pieds sur un bateau, tu m'étonnes. Le PSG affrontera le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions de football, féminine bien sûr. Les Parisiennes ont battu le Bayern Munich 4-0 en quart de finale retour hier soir au Parc des Princes. Elles ne s'étaient inclinées que 1-0 au match aller, je vous laisse faire le calcul. Les demi, elles se joueront à la fin du mois d'avril, qualification également des Lyonnaises.
Est-ce que vous nous avez fait rêver ce matin, Thierry Parrella?
Moi je pense que je vous ai fait un petit peu rêver ce matin, un piton de 7 mètres, je pense que c'est assez exotique pour...
Oui,
je
mais
pense que
le problème c'est qu'il y avait quelqu'un dans son ventre, le piton tout seul à la limite. Coucou, ça va piton? Oui, c'est moi. Mais s'il y a quelqu'un dedans, c'est tout de suite, c'est pas... Vous voyez, là, vous créez de l'inquiétude.
Il paraît qu'il n'arrivait pas à se déplacer.
La France a peur ce matin.
Il paraît qu'il n'arrivait pas à se déplacer.
La France veut une tête, Thierry. Oui,
c'est pour ça qu'il a été chopé.
Paris veut une tête. Paris l'aura. La France a peur, la France tremble.
Encore la tête de piton.
Vous vous rendez pas compte du tout de c'est très anxiogène. Là. Moi, je vois du piton.
Et sur Benoît Hamon, on y revient là, sur cette histoire.
Non, écoutez, vos analyses politiques, comme moi, vous voulez garder pour vous. Allez, les frères Jacques, c'est Nova.
Alors, après la pub.
Ah, bah, bien sûr, oui.
Plus près de toi.
plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission ? Mais c'est beaucoup trop court.
Est-ce que c'est adapté les pubs au programme eux-mêmes ? Parce que le fait qu'il y ait énormément de pubs pour du pinard et de la bière, c'est un message personnel. Il y a le domaine Boucabel.
Ils se sont rendus compte d'un truc, peut-être.
Ben, je ne sais pas de quoi. Allez, mettez des Atunga.
Le fric, pom, 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 magique, pom, pom, l'artiste, pom, pom, fortige,
pom, 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 le fric, magique, l'artiste, fortige. Alors, il est 7h09, c'est l'heure du club des connoisseurs. Oui, Marie Missé.
Marie, on démarre toujours par Marie Missé.
Ils ne savent rien, mais ils vous disent tout.
C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
Oui, on l'avait, c'est du Audiard qu'on avait déjà cité en 32 ici. Alors, Marie Missé, entourée de tous ses compagnons de la chanson.
c'est la série.
Qu'est-ce que vous avez là? C'est une photo de qui dans le journal, Marie Missé?
C'est une Anna Paulina.
Ah oui, elle est connue.
Actrice, réalisatrice, X d'origine russe qui habite à Paris depuis ses 10 ans et qui défend un porno joyeux.
D'accord, ah bon, dis donc.
Qu'est-ce que c'est un porno joyeux?
Oui, oh, dis donc, toi, ça va.
C'est le contraire.
Ça me fout le cafard.
Vous
allez.
Posez la question,
oui, vous avez raison.
Alors, deux choses.
De leurs mots.
Deux informations.
Oui. Bah, attendez, on se reprend.
Reprenez-vous.
On se reprend.
Je vous demande de
bonjour à tous. Peut-être qu'il y a des gens ailleurs que dans le studio qui écoutent par hasard, par erreur.
Oui.
C'est gentil d'être avec nous parce que c'est réciproque. Et donc, Marie, qu'est-ce que vous avez puisé?
Ce matin, j'ai découvert dans Libé qu'il y avait un commerce du lait de femme mondial qui existe. En gros, le Cambodge vient d'interdire l'exportation de lait maternel. Donc, c'est à cette occasion que j'ai découvert qu'il y a certains pays où on peut vendre son lait. Et là, en l'occurrence, c'est des entreprises américaines qui viennent au Cambodge pour prendre le lait des femmes et le renvoyer stérilisé et pasteurisé aux États-Unis pour qu'il soit consommé par des bébés américains. Alors le gouvernement cambodgien, il a dit, certes le Cambodge est pauvre, mais pas au point de devoir vendre le lait de ses mères.
Vous voulez dire que les ricains, ils font du mal? Vous en tirez des conclusions générales?
Non, c'est anecdotique,
n'en tirons pas des...
C'est un raccourci.
Parce que n'oubliez pas ce que disait le penseur Michel Sardou, si les ricains n'étaient pas là, on vivrait tous en Germanie à saluer je ne sais quoi. Je ne sais qui.
Vous avez de ces lettres.
Voilà, alors que j'ai lu l'intégrale Sardou et je peux vous dire qu'il y a des trucs qui dérangent et qui sont d'actualité. Mais merci d'autres aspects de l'actualité de cette journée.
Il se trouve que ça vient aussi des États-Unis. Avant-hier, le Sénat américain a voté un décret selon lequel les fournisseurs d'accès à Internet pourront vendre les historiques web des utilisateurs de l'Internet. Ça a fait un petit peu de monde. Alors, il se trouve qu'il y a une initiative citoyenne. Il y a un crowdfunding, un financement participatif qui a été lancé pour pouvoir acheter les historiques des 50 sénateurs américains qui ont voté en faveur de ce décret pour savoir quel site ils vont voir et pour
être leur propre pièce. Dans les yeux, Thomas Baumgartner,
c'est ce que je fais.
Y a-t-il depuis que vous êtes sur Internet, c'est bien avant l'invention d'Internet,
j'étais en 40, y a-t-il
une recherche que dans votre vie vous ayez faite dont vous ayez honte, qui ne soit pas juste?
Non, mais moi on peut le vendre, il n'y a pas de problème.
Pensez maoïste ou bien recherche sur le bouddhisme.
Pensezmaoïste.org.
Oui. Non, mais vous n'avez, il y a rien à rougir.
Non, il y a rien à rougir. Il n'y a rien à cacher, c'est ça, c'est l'argument.
Crois,
c'est l'argument.
Je crois que les gens qui sont contre la surveillance sont des gens qui ont des choses à cacher.
Bien sûr.
Un peu de transparence, Edmund Kelly.
Alors moi, j'ai, c'est une mesure qui se balade un peu en Europe, les gens y réfléchissent. Ça s'appelle, les gens proposent un congé pour règles douloureuses au travail. Voilà.
Ce qui existe déjà en Chine.
Qui existe en Chine, en Zambie et tout, et on y pense pour la France et tout. Alors les gens verraient ça comme un progrès social, les femmes prendraient 3 jours de congé pour pas être là, enfin, parce que c'est très douloureux. D'autres y verraient le contre, c'est un prétexte pour pas aller bosser. Qui serait pas très bien. Et puis une deuxième chose,
c'est le résumé du débat.
Il n'y a pas de misogynie dans votre propos.
Pas du tout. Je savais que sur ce sujet-là, je m'aventurais, même en le démarrant, sur quelque chose de très 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 douloureux.
Marie, qu'est-ce qu'on dit à part d'aller prendre les riz à café
pour être douloureuse?
Allez, bonne femme, vraiment.
Mais non,
elle charrie.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est qu'à un moment donné.
Moi, je sais que Atman, quand vous avez accouché de votre premier enfant, vous avez été très courageux, vous n'avez pas demandé de péridurale. Tito,
Alors moi, c'est.
Je reviendrai reparler de ce truc-là, mais.
Oui, allez-y, Tito.
Voilà, question juridique. Laissé en garde, mon chien s'est blessé. qui paie les soins? Eh bien, c'est le gardien de l'animal. C'est-à-dire que tu laisses ton chien en garde, il se fait attaquer par un gros chien à côté, oh, il se fait manger, eh bien, c'est pour le gardien, voilà. C'est pas toi qui paieras l'hôpital.
Ah ben, j'ai lu cette information tout à l'heure et je me suis dit que celui qui posait la question était un sacré radin, quoi. Il fait garder son chien, le chien se blesse dans l'exercice.
C'est une question de société, non, ça va plus loin que ça.
Ce que je vois surtout, c'est que vous avez lu cette info, vous l'avez pas trouvé digne de paraître dans cette émission. Tandis que Tito, c'est quoi? Et quand t'as Atmen qui est arrivé ici à 7h10 avec ce qu'on appelle la gueule dans le cul communément, il est allé chercher un vieux truc sur internet pour faire tu finiras chez Hanouna. Allez,
j'allais pas dire qu'Adèle s'est fait attaquer par des moustiques.
Quoi? Qui s'est fait attaquer par des moustiques?
Adèle s'est fait attaquer par des moustiques.
Voilà. Oui,
hiérarchie de l'info.
Voilà, paf, en
terre. Un peu anecdotique.
Coco, tu me mets ça sur 5 colonnes, lui. Tito, vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin puisque vous avez un ami de là-bas, de chez vous, d'Aquitaine, du lac d'Ourthe qui est venu. Alors, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas. On s'est aperçu d'ailleurs, moi j'ai appris, depuis qu'on parle de Guyane, qu'il y a des fonctionnaires qui viennent en pirogue travailler. C'est le seul département français où pirogue, on peut être fonctionnaire et piroguier. Et vous êtes venu avec un pinassier. Comment on dit, Grégory Debord, votre métier?
Pinassaille.
Un pinassaille, c'est-à-dire?
Constructeur de pinasses.
Alors, ces d'autres bateaux ne sont pas des pirogues. C'est comment une pinasse?
Une pinasse, c'est l'avant d'un bateau qui est la pinasse. Parce qu'en fait, la pinasse a sa propre identité. C'est le bateau historique de l'ostriculture du bassin d'Arcachon.
Je n'ai pas compris ce que vous disiez sur l'avant, pardon.
L'avant, c'est une pinasse qui a une étrave avec des cornes. C'est la spécialité de ce bateau. C'est le seul bateau au monde qui a des cornes. Des aboutissements de pièces en bois qui dépassent de l'avant.
Je savais bien que ça n'allait pas être des cornes comme chez les bêtes à cornes. Dans le monde de la mer, c'est jamais les mêmes mots. Si jamais on dit une corde, on se fait virer du bateau.
Absolument.
On dit un bout. Quels sont les d'autres mots qui sont interdits sur les bateaux? Lapin?
Non.
Oui, tout à fait. Lapin, c'est interdit.
Pourquoi on peut pas dire lapin?
Parce qu'à l'origine, ils amenaient des lapins à bord pour manger, et ces lapins-là mangeaient le calfatage, c'est-à-dire la corde qui est entre les planches et les bateaux coulés.
Alors c'est comme le verre dans le théâtre, on peut pas porter du verre, on peut pas apporter de lapin en mer.
Non.
Et si vous avez un petit lapin très gentil, vert, par exemple Jeannot, qui dit oui, je veux faire du bateau, on lui dit non.
Non.
Moi j'ai pas le cran de faire ça, j'ai pas le cran. Tito, parlez-nous de Grégory Debord.
Alors Grégory, il a un chantier naval et il a relancé la pinasse sur le bassin d'Arcachon qui avait disparu, qui allait disparaître parce que ce bateau n'était plus d'actualité, la cabine était trop petite, etc. Et il a réinventé à partir des mesures naturelles du bateau, il en a fait quelque chose, une coque en plastique qui permet d'avoir plus de place à l'intérieur de la cabine et de l'équiper pour pouvoir en faire un bateau de promenade aussi.
Grégory, c'est quoi les particularités en plus de l'avant? C'est très plat parce qu'il faut aller dans des bas-fonds, dans des hauts fonds, pardon.
Cette pinasse-là, elle est à crémaillère, c'est-à-dire qu'elle a l'hélice qui se remonte. C'était le premier système qui existait au monde. Et cette pinasse a un fond plat parce qu'elle était à l'utilisation de l'ostriculture pour pouvoir se poser sur les parcs à huîtres et charger les huîtres.
Les ostriculteurs continuent à circuler entre le parc à huîtres dans des pinasses ou pas?
Plus maintenant, en fait. Dans les années 70, l'ostriculture est passée sur le bateau bac, dit le chaland, qui utilise maintenant beaucoup de matériaux tels que l'aluminium.
C'est comment un chantier naval? C'est comment chez vous? Là, il y a du monde qui travaille ce matin pendant que vous êtes là à vous l'adorer.
Un chantier, c'est... c'est l'odeur d'abord, l'odeur du bois, les copeaux, le pin, puisque la pinasse vient à l'origine du pin maritime, de pinus, du latin. Et la pinasse qui a pris ce nom est fabriquée toujours avec du bois. Aujourd'hui, des acajou, des cipots, des sapelli, qui viennent donner de la douceur aux lignes élégantes de la pinasse, qui en fait aujourd'hui un bateau atypique et vraiment recherché sur le bassin.
Alors, on montre des photos à la radio pour les auditeurs, c'est vraiment très beau, hein, c'est très élégant, c'est fin. Donc c'est une pinasse à cause du pin, le fameux pin des Landes, les plus grandes forêts d'Europe de pin.
Tout à fait. Ouais.
Ça sent quoi? Là, vous n'avez pas apporté du pin?
Non.
Et là, donc on apporte le pain, on scie les forêts des Landes, on l'apporte chez vous, et là combien de personnes travaillent en ce moment?
Tout à fait. En fait, on ne scie pas la forêt des Landes, on prend l'arbre. Qui, après être débité, c'est-à-dire en fin de vie, le plus beau, c'est de donner de la noblesse à l'arbre. On a chacun une fin de vie et de réussir à donner de la vie à ce bout de bois qui va devenir un bateau, le remet au sens de la noblesse et donne un bateau qui retrouve toute l'utilisation que l'on peut faire en famille.
Ça nous donne des idées pour nos fins de vie, c'est-à-dire être utile, être la base d'un bateau. Thomas, ça vous tenterait peut-être d'être...
Oui, normalement, je ne connaissais pas du tout ce que c'est une pinasse. Il y a combien de personnes qui peuvent monter à bord?
On peut monter... Alors normalement, on monte à 12 quand on part au banc d'Arguin et on revient à 20.
Voilà. Mais pourquoi. En même temps, si c'est avec Depardieu, on peut être que 8. Voyez, ça dépend, du poids, ça dépend. Il y a des
personnes. C'est un poids total en charge.
Si c'est le bel homme dans le sens du sud-est, du sud-ouest, un bel homme, 120, 132 kilos. Merci beaucoup, Grégory Debord. Et puis, les auditeurs peuvent gagner, non.
Dire, un tour en Pinasse.
Où est-ce qu'on n'en voit que là-bas, que dans le bassin d'Arcachon, de ces
beaux bateaux. La spécialité du bassin. Ouais.
Ouais. Vous en parlez très bien. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Atmen, vous avez passé un bon moment ?
Très bon moment, mais monsieur fait des gabarres aussi, c'est ça ?
Je suis spécialisé dans le bateau régional. Donc je fais des gabarres, des tout cabanés pour la Loire, des bateaux à Aube pour la Savoie. Je suis spécialisé dans le bateau
traditionnel. Parce que moi, je m'occupais des gabarres.
Un gabarre ?
C'est un bateau qui va sur des petits fleuves, comme ça, des bateaux de promenade, enfin, des petites rivières. Comme
tout à fait.
Et Jean-François Gabarre, alors ?
C'est votre agent.
Ah oui, Tito, merci pour votre ami. Hein ? Parce que, et puis restez pour la météo, et puis je vais vous mettre quelque chose de musical, comme on dit dans les Veillées Radio de 1950.
Raté !
La publicité encore. Voilà. Eh bien, dis donc, vous aimez ça.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h. Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Il faut mettre un peu de musique ce matin. Il y a des jeudis qui ont besoin d'être musicaux. J'ai croisé hier le grand Benoît Poulvord dans les rues de Paris. Il m'a signalé une version par le chanteur Arnaud, le chanteur bruxellois, d'un classique de Brel. On y va ce matin. On y va.
Que par amour, ils nous laissèrent. Arnaud, mais voir un ami pleurer. Il est 7h31, il est irréparé.
La Commission nationale et consultative des droits de l'homme, institution rattachée à Matignon, rend son rapport annuel sur le racisme ce jeudi, sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France. Résultat, pour la troisième année consécutive, les Français gagnent en tolérance. Les propos racistes sont jugés de plus en plus intolérables par les Français. Pour autant, les préjugés, les propos et les attitudes racistes n'ont pas disparu, bien sûr. C'est ce que disent les auteurs du rapport. Et les améliorations constatées ces dernières années ne doivent pas masquer l'ensemble de la situation. Fin de citation.
Ce qui est bien dans le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, c'est que ces trois mots, mais parfois c'est les mêmes personnes qui ont les trois. Donc ça simplifie beaucoup les décomptes.
Pour la troisième soirée consécutive, la communauté chinoise de Paris a manifesté dans les rues de la capitale, devant l'hôtel de ville cette fois-ci. Les deux précédents rassemblements, c'était dans le 19e. Toujours pour dénoncer la mort d'un père de famille tué à son domicile dimanche dernier par un policier de la BAC. Comme pour les deux précédents rassemblements, il y a eu des affrontements avec la police. Une voiture a été incendiée, des vitrines ont été brisées. Il est 5h30 du matin en Guyane. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont arrivés sur place hier dans la soirée pour tenter de trouver donc une solution à la crise qui secoue le territoire français d'Amérique du Sud depuis maintenant plus d'une semaine. Alors que Manuel Valls a décidé de voter pour le candidat du mouvement En Marche dès le premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron donc, Benoît Hamon a de nouveau appelé Jean-Luc Mélenchon à se ranger derrière lui. En meeting hier soir au Havre, le candidat de la France Insoumise a refusé de retirer sa candidature en faveur du candidat du Parti Socialiste.
Moi j'ai fait pareil, j'ai demandé à Mélenchon de se ranger derrière moi, je n'ai aucune réponse.
Le secrétaire national du Parti Communiste, Pierre Laurent, a lui appelé à une rencontre dans les prochains jours avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un enfant de 5 ans et demi enlevé par son père à Clermont-Ferrand. C'est la 20e fois qu'une telle alerte est enclenchée en France. Jusqu'à présent, elle a permis à chaque fois de retrouver les enfants enlevés sains et saufs. Chaque année, le Japon est balayé par de nombreux typhons. Comment tirer profit de ce phénomène naturel ? Comment les transformer en énergie ? Un ingénieur de Tokyo a peut-être trouvé la solution. Il a conçu une éolienne capable de résister aux typhons. Une performance d'autant plus exceptionnelle qu'au Japon, le vent ne contribue qu'à la production d'électricité qu'à l'échelle de c'est moins de 1%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors il s'agit d'une éolienne qui ne ressemble à aucune autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pales, elle ne dispose pas de pales, elle a un pilier central et puis elle est entourée de 3 cylindres.
Oui, enfin une performance, je te le fais moi, voilà, faut arrêter de tout le temps dire du bien des autres.
Quand ils font, l'hélice ne tournerait pas. C'est exactement ça qu'ils ont fait, j'ai vu, ils ont fait un tube.
Vous connaissez plein de trucs.
Mais oui.
Bah oui, vous êtes
tellement informé.
Mais oui, mais vous n'êtes pas typhon.
Le PSG affrontera le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Non, vous ne rêvez pas. C'est l'équipe féminine. Les Parisiennes ont battu le Bayern de Munich 4-0 hier soir en quart de finale retour au Parc des Princes. Qualification aussi des Lyonnaises qui ont sorti l'équipe de Wolfsburg.
C'est très beau Munich. J'avais été à l'époque où Lisa Razou jouait au foot là-bas. C'est très beau. C'est une équipe qui a vraiment un petit plus. C'est le petit plus. Vous voyez. C'est-à-dire quoi? Non, mais il y a l'info.
C'est-à-dire Munich comment?
Non, c'est d'ailleurs ce que je voulais vous dire, Atmen. Oui. Il y a l'info qui est bien, oui. C'est l'info brute, et les gens se la prennent vraiment, il y a un côté brutal dans la gueule, on se prend les typhons, et il y a le petit plus, c'est-à-dire le type qui dit là, Nova, moi en l'occurrence moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre en cas de maladie ou de décès de ma part, et tout à coup quelqu'un, et il y a le petit plus, il rajoute un petit truc à lui, ça s'appelle, c'est une sorte de gonzo journalisme, il se met dans l'actualité. Vous avez fait une intervention brillante. regarde sur le typhon, on dit « Ouais, le typhon, c'est pas bien oui. !» C'est une prise de position, une prise de parti. Et Thierry Paré, le journaliste, mais a vous dit « Munich », j'ai dit « Tiens, j'y étais !»
Et j'y étais à Munich.
Et là, les auditeurs sont contents, ils disent « Tiens, sa vie, il y a été voilà, !»
Après... Peut-être un détail, alors, c'est
un
beau
détail,
comment,
oui,
peut-être...
comment Non, dis donc, alors, alors s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. C'est beau quand... Et puis alors, parfois moins. Il y a des quartiers qui sont... Il y a des quartiers qui sont... Puis alors, il y a des quartiers, alors on se dit, oula, oui. Quel beau quartier de Munich.
Et puis d'autres
alors, y a, non, alors, il y en a d'autres, on marche, on dit, oh, c'est pas mon Munich, ça. C'est pas, mais alors, parfois, on dit, ah, oui, là, ils savent y faire, ces Bavarois, quand ils s'y mettent. Mais alors, vous quittez cette rue-là, vous traversez au feu, parce que vous ne traversez pas si c'est pas vert, si c'est pour les piétons. Donc, traverser au rouge, c'est l'équivalent, c'est les normes européennes. Et là, vous arrivez dans un quartier, et là, vous dites, oh là là, ils m'ont foutu ça. Et alors, c'est souvent des constructions qui sont, je dirais, mal calculées par les architectes, par les urbanistes. Parfois, c'est des plans d'urbanisme qui sont ratés. Et bien, alors après, on revient dans notre...
Mais je la connaissais avec Perpignan.
Oui, sur Perpignan, ça vaut aussi. La météo, Tito, merci. La
météo. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, 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 c'est la Gémo. Allez, 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 c'est la Gémo. Allez, 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 c'est la Gémo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Saint-Amédée. Saint-Am, Amadeu, Amadiou, Amadei, Amadeus. Il fera soleil sur toute la France, partout. Aujourd'hui, il fait beau. Les températures seront à Agen de 9 à 24, à Amiens de 10 à 22, à Bordeaux de 12 à 26, à Brest de 11 à 19, à Dreux de 12 à 22, Limoges de 12 à 22, Marseille de 9 21, Metz, 9 à 21 aussi, Nantes, 12 à 22, Paris, 11 à 22, Reims, 9 à 22, enfin bref, aujourd'hui, même à Tours, il fait de 12 à 22, que des 22 pour la journée. Allez, allez, oh, allez, 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 c'est la Gémo, allez, 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 c'est la Gémo, allez, 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 c'est la Gémo.
Il y a des quartiers de Tours qui sont extraordinaires, oui. Et tout à coup, vous arrivez, au détour d'une rue, vous êtes très... Il y a un autre quartier, non? Et non, c'est très curieux. Hein,
ça passe du tout au tout, quoi.
Non, il y a aussi des entre-deux. Il y a ouais. De l'entre-deux. Il oui. y a des choses qui sont ni bien ni mal, qui sont par-delà bien et mal, qui sont hors jugement. On ne peut pas juger tous les quartiers de Tours, il faut arrêter. Il y a des quartiers, là, vous êtes là, vous dites, oh, ça, c'est, ah oui, là, vous dites, vous comprenez les Tourangeaux, les Tourangelles, vous dites, ils ont raison, ils ont, c'est formidable. Et puis alors, là,
tout de suite après.
Ah, bah, tout de suite, on y reviendra.
Canette de bière, un peu partout.
Jacques, souvent à Toulouse, dans les rues.
C'est le quartier Belfort, c'est le quartier qui est un peu le quartier de la fête. Et là, il est en train de se réveiller.
C'est la fête.
Moi, je suis avec Aurore. On est rue Stalingrad et rue Ménard. Et Aurore, vous êtes donc éducatrice pour mineurs isolés. Et vous me disiez que les réseaux de passeurs, ils ont connaissance de ce genre de lieu et des fois, ils vous apportent directement des jeunes enfants.
Oui, tout à fait. Ils savent un peu tout ce qui se passe. Ils savent que le conseil départemental prend en charge des mineurs isolés étrangers et donc font croire à certaines personnes qu'en se faisant passer pour mineurs, ils pourraient être pris en charge par la protection de l'enfant.
Bonjour Aurore.
Bonjour.
Vous voulez dire que ce sont des enfants qui arrivent directement par les Pyrénées, qui arrivent d'autres pays, ce sont...
Qu'est-ce que... Par l'Espagne ou par l'Italie, oui. Ils viennent des pays d'Afrique noire ou du Maghreb et également Pakistan, Afghanistan, Bangladesh.
Alors, j'ai entendu réseau de passeurs.
Ça, c'est votre collègue qui a dit ça.
Ah oui, tout à coup, il est dans la théorie de conspiration. Donc, vous vous occupez, vous êtes là, on vous signale des mineurs qui sont seuls, qui sont à la rue, et vous êtes chargé quoi? De les héberger, de les scolariser
Alors, nous, on est chargé de les évaluer dans un premier temps, et ensuite, s'ils sont évalués mineurs, on les prend en charge le temps qu'ils soient orientés vers des maisons d'enfants.
Donc, évaluer mineurs, c'est oui. D'évaluer où ils ont... D'abord, savoir s'ils sont vraiment mineurs.
Tout à fait.
Et donc quoi, ce sont des questions que vous leur posez, sont des...
Oui, par rapport à leur parcours jusqu'en France, par rapport à leur à vie familiale, leur situation scolaire aussi, leur parcours scolaire, et aussi sur le comportement qu'ils peuvent avoir sur les hébergements, par exemple. Un comportement d'un jeune de 15 ans n'a pas le même que celui-là d'un jeune de 25, voire 30 ans.
Mais alors, il y a un côté un peu dramatique, c'est-à-dire jusqu'à 17 ans, on peut être aidé, on peut être sauvé, à partir de 18 ans, vous êtes impuissant, vous dites là, je peux rien pour vous.
C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ça le problème. Quand on nous critique beaucoup d'ailleurs sur le dispositif parce que voilà, à partir de quand ils sont évalués majeurs, nous on ne peut rien faire pour eux parce que nous on n'est pas là pour les étrangers, on est là vraiment pour la protection de l'enfance et donc pour s'occuper des mineurs isolés.
Est-ce que parfois vous êtes tenté, vous voyez quelqu'un 18-19 ans, vous aimeriez l'aider, vous avez envie d'un petit peu...
Oui, c'est ça, on est humain. Forcément, je suis éducatrice donc je suis là pour travailler avec les personnes et donc ça fait toujours mal au cœur de de faire sortir un jeune qui, on sait, a un peu plus de 18 ans et on ne peut rien faire pour eux, malheureusement.
Alors j'imagine qu'il y a ce truc aussi un peu douloureux, donc vous prenez ces enfants, ces adolescents, puis à un moment ils vous échappent, ils partent ailleurs, on peut pas, on n'a pas le temps de s'attacher à des gens qu'on a croisés.
Oui, bah après on reste quand même en contact avec eux parce qu'ils traînent quand même sur Toulouse et on voilà au même endroit où on allait nous avec nos jeunes et du coup on reste toujours un peu en contact, on sait comment ils deviennent, enfin ce qu'ils deviennent plutôt pardon et où est-ce qu'ils vont.
Vous-même, vous n'avez pas l'air très âgé, Aurore. Donc, est-ce que dans votre carrière professionnelle, il y a des enfants, des ados, vous avez vu s'en tirer et bien réussir dans leur scolarité après que vous les ayez aiguillés?
Après, c'était pas dans le même secteur. Hein. Moi, c'est dans le médico-social, des jeunes qui étaient en ITEP, ça va pas vous parler, dans des structures voilà, qui ont des troubles du comportement et qui ont des difficultés à l'école, et puis finalement reviennent quelques années après. Avec un brevet ou un bac, voilà.
Et un petit bouquet pour Aurore.
Un petit bouquet, non, mais un sourire et ça suffit.
Très bien. Eh bien, écoutez, on vous laisse, là, il est 7h40, vous allez travailler.
Oui, je suis en retard, voilà, je vais me faire engueuler par mon collègue.
Vous savez, se faire engueuler, c'est une façon de considérer l'autre, c'est le début du lien. Par exemple, j'ai ici Ahmed Khelif, il me dit, mets-moi une tarte, ça veut dire que tu m'aimes, vous voyez, je crois que c'est le lien commence comme ça, c'est une façon
d'accord,
de...
D'accord, je lui en parlais, alors.
Salut, très, très belle journée à vous, Aurore, merci.
Merci de même.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Thomas Baumgartner, qu'est-ce qui me garantit que Anne Niva, l'auteur de « Dans quelle France on vit », va se comporter différemment, va nous dire d'autres choses que dans cet énorme marathon de presse, de télévision, de radio, où on la voit, on l'entend avec grand plaisir. Je voudrais que vous en sortiez autre chose, qui est le petit plus Nova.
Le petit plus Nova, très bien. Édouard Berre, on va tenter. En tout cas, il faut déjà présenter ce livre « Dans quelle France on vit ». Bonjour Anne Niva.
Bonjour.
Qui est un reportage à l'anglo-saxonne, on va dire, c'est ça. C'est une balade en France, dans plusieurs villes de France, à hauteur d'homme, c'est ce que vous dites d'ailleurs à la fin du livre. Et c'est vrai que c'est ça, d'hommes et de femmes, à toutes les heures du jour et de la nuit. Il y a des moments où
ça s'arrête jamais, le reportage.
Ça s'arrête jamais, voilà.
C'est pas 9h, 17h.
Vous allez dans... Il y a 6 villes. Et à chaque fois, à chacune de ces villes, ville moyenne, moins de 50 000 habitants, un thème. Vous allez à Laon, en Picardie.
Oui.
Vous allez explorer la question du déclassement,
le sentiment de déclassement.
À Montluçon, à Laval, où il y a question du travail, du chômage. Vous allez à Ajaccio, où vous questionnez la question
d'identité.
Et à Évreux, sur la question de la jeunesse, et à Lons-le-Saunier, sur l'insécurité. Sur cette base-là, on a l'impression que ce qui vous guide, c'est d'abord en fait la curiosité.
C'est ça
la méthode.
Mais effectivement, j'ai rien inventé, il n'y a rien d'extraordinaire du tout dans ce que je fais. C'est juste... aller voir, écouter, entendre, s'intéresser à l'autre. Et surtout, quand il n'y a pas de scoop en vue, mais j'ai l'impression que ça rend perplexe tout le monde. C'est ça qui m'étonne. Donc effectivement, il n'y a pas de raison particulière pour que j'aie été dans toutes les villes que vous venez de citer. Mais il fallait bien choisir des villes. Et une fois que j'y suis, moi, mon seul but, c'est de revenir avec quelque chose à écrire. Donc pour ça, il faut du matin au soir, du soir au matin, être aux aguets, à l'affût, observer tout simplement, même quand il ne se passe rien.
Vous marchez dans les rues beaucoup?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, à Évreux, une de mes premières villes, je raconte la scène où j'ai un problème de chaussures, puisque je marche beaucoup, pas avec des chaussures à talons. Et j'ai un problème de chaussures. La semelle se décollait. Hein. Et je trouve, comme il n'y avait plus de cordonnier ouvert à Évreux dans le centre-ville, j'ai dû aller au supermarché, ce qui m'a permis de voir beaucoup de gens et de choses qui se passaient dans le supermarché. Le supermarché étant le dernier grand lieu de mixité dans nos villes françaises. Et là, je rencontre des Tchétchènes. Deux Tchétchènes qui sont là en train de faire leurs courses. Et pour moi, c'est quand même extraordinaire parce que la Tchétchénie, c'est la première guerre que j'ai couverte en 1999. Donc, une espèce de coïncidence comme ça qui me tombe dessus au début de ce livre. Et ces Tchétchènes, évidemment, je leur parle.
Vous reconnaissez quoi? Vous les reconnaissez?
Langue,
vous les entendez
langue.
Parler en tout?
Je reconnais leur langue. Et je m'adresse à eux en russe, pas en tchétchène. Et ils étaient vraiment très étonnés. Et je leur dis en russe que je connais leur pays. Et évidemment, ils m'invitent chez eux à dîner le soir. Et c'est exactement dans le quartier qui était le quartier auquel je m'intéressais à Évreux pour essayer d'illustrer dans mon chapitre le malaise des jeunes. Et c'était parti, j'avais un nouvel angle pour mon chapitre.
Donc vos méthodes, marcher, avec des souliers un peu fatigués pour pouvoir avoir besoin de l'autre. Il faut avoir besoin des autres.
Toujours.
Ou quelque chose. Et puis, parler quand même quelques langues ou le langage des signes, parce que moi, je n'aurais pas reconnu.
Les deux, et toi.
Ils étaient devant quoi? Ils étaient devant des œuvres maltines de quoi? Ils étaient
non,
devant quoi?
Moi, j'étais en train d'attendre que le cordonnier fasse son travail.
C'est un hyper, alors, plutôt
qu'un hyper.
Ah oui, parce qu'il y a un stand cordonnerie.
Après les caisses, vous savez, il y a des stands. Donc j'étais là en train
d'attendre. Les photomatons, cordonnerie.
C'est ce qu'on comprend. Les centres commerciaux sont les nouveaux centres-villes et des lieux de sociabilité, en fait.
Absolument. Les nouveaux musées, les nouveaux lieux de promenade.
Oui, c'est le lieu de distraction du samedi aussi, le mot là, l'américain.
Oui, du samedi, de la fin d'après-midi, etc. Donc quand les centres-villes sont assez déserts, bien, il faut aller à l'hyper et ouvrir ses yeux et regarder. Alors j'étais entre une vieille dame assise avec les deux mains sur sa canne qui observait les gens. Finalement, elle et moi, on faisait à peu près la même chose. Et de l'autre côté, il y avait les deux jeunes Tchétchènes qui achetaient des pommes de terre pour le dîner du soir auquel j'étais invitée.
Voilà, vous posez des questions, vous allez vers les gens, vous avez des rendez-vous pris dans les villes. Comment est-ce qu'on tape le pouls d'une ville?
Oui. À l'avance, j'en ai pas pratiquement. Je suis mon instinct, je tire le fil. Mais ça, j'ai appris à le faire dans la guerre, dans toutes ces guerres que j'ai couvertes, où effectivement, c'est pas du tout la même ambiance. Tout est beaucoup plus dramatique, tout est beaucoup plus absolu, et donc on tire un fil peut-être plus facilement dans la guerre. Et moi, je ne sais pas travailler autrement. Mais dans la France qui n'est pas en guerre, il a bien fallu que je m'adapte. Donc c'était peut-être un peu plus lent pour tirer le fil, mais le fil, il est là, il existe. Il est subjectif, bien sûr.
Quelles sont les perles qu'il y a dans le fil, cher Thomas Baumgartner?
Oh, la métaphore.
Ah oui, alors je suis très très fier.
Non, mais des perles, il y en a énormément. Il y a énormément de rencontres, à chaque fois des caractères différents, des personnalités différentes que vous mettez en avant, que vous décrivez très précisément à Niva. Et puis, à travers ces villes-là, à travers la Picardie, à travers la Mayenne, à travers la Corse, à travers le Jura, il y a aussi ce qui se développe comme une photo, c'est certains points caractéristiques. Et en particulier, on se rend compte que la pauvreté, évidemment, c'est quelque chose qui est en commun à pas mal de monde que vous rencontrez et qui est structurant dans la vie des gens. Ce n'est pas forcément la misère, mais la question de l'argent, c'est fondamental.
Non, ce n'est pas la misère, parce que tout le monde s'accorde à dire, même les plus pauvres, que notre pays est un beau pays, et que ce n'est pas un pays misérable. Mais la pauvreté, bien sûr, le fait de ne pas avoir assez, la certitude, ce sentiment d'avoir peu et d'avoir peur d'avoir bientôt encore moins, ça c'est quelque chose qui est revenu dans beaucoup de discussions, bien sûr.
Et ça crée des tensions qui se traduisent par exemple par des tensions géographiques. On déteste le centre quand on est en périphérie, on n'aime pas forcément son voisin, on se méfie de celui qui arrive dans le quartier.
On se méfie de l'autre en général, du nouveau venu, de l'autre, de celui qu'on a l'impression de ne pas connaître. Et moi, en tant que journaliste, finalement, je n'ai fait en France, je répète, que ce que je fais d'habitude à l'étranger, mais c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, je suis une intermédiaire, je mets tout le monde en fait en rapport. Et je me rappelle que à Évreux, par exemple, quand j'ai quitté Évreux, j'ai parlé avec des gens qui m'avaient accueilli chez eux pour dormir et qui m'ont dit « mais tu nous as raconté des choses de notre ville qu'on n'aurait pas soupçonnées, qu'on ne connaissait pas ». Dans le quartier de la Madeleine à Évreux, où j'ai beaucoup été, où il y a une grosse immigration, j'ai découvert quatre sœurs, des petites filles des pauvres, des sœurs catholiques qui vivent dans un HLM là depuis des années.
Vous faites l'histoire d'ailleurs de ces sœurs.
Oui, je raconte leur histoire, de leur présence à Évreux. Mm-hmm. Et leur travail est tout à fait méconnu, il est évidemment hyper estimable et il est hyper intéressant parce que là justement, le fameux vivre ensemble, il existe, il est concret. Une de ces sœurs a été aumônière à la prison pendant très longtemps. Donc évidemment, elle est catholique, mais en prison, elle rencontre beaucoup de détenus musulmans qui n'ont pas d'imam à qui parler, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc il lui parle à elle, donc ça c'est extraordinaire, il n'y a pas de dialogue interreligieux plus productif que celui-là. C'est celui qui se crée par le hasard finalement.
Alors,
il interpelle dans la rue quand ils sortent. Ils sont musulmans, ils sont encore musulmans, elle est encore catholique, et puis finalement c'est pas grave.
Alors là, vous parlez de religion, de types différents de gens qui se croient justement dans ces zones intermédiaires. Mais est-ce que le fait d'avoir sillonné la France comme ça, géographiquement, vous avez l'impression que ça s'est un peu affaibli, ces différences géographiques, qu'il y a de plus en plus à l'américaine une sorte de grand nulle part où les gens habitent juste dans leur milieu social plus que dans la géographie?
Mais pas tellement,
pas
justement.
Tellement,
bon. Pas tellement, parce que j'ai l'impression que les gens sont encore extrêmement Ils tiennent énormément à leur lieu de vie et à la distinction de celui-ci par rapport à celui du voisin. Comme on n'a pas grand-chose, on a la ville. À Laon, par exemple, où j'ai découvert la ville haute et la ville basse, la ville haute médiévale, la cathédrale de Laon, il y a une fierté d'être de la ville haute qui est étonnante. À Évreux aussi, il y a cette fierté d'être hébroïcien, Ajaccio, bien sûr. Donc, non, on n'est pas du tout dans ce magma effectivement américain qu'on ressent bien quand on est sur l'espace américain. Non, l'espace français n'a rien à voir.
Vous parliez du voisinage des religions. La question religieuse dans cette France dont on dit qu'elle est laïque, elle l'est. Oui. La question religieuse est fondamentale, j'ai l'impression, dans tel que vous le décrivez.
Mais je suis d'accord avec vous. La France est laïque. Moi, je fais partie des gens pour qui la religion n'a pas grande importance. Je ne pratique pas une religion, mais j'ai trouvé la religion à chaque pas. J'ai trouvé un besoin inouï. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui m'étonne, mais cela m'a surpris, oui. Cette espèce de spiritualité nécessaire que j'ai ressentie dans chacune des villes, chacun à sa façon. Hein. Parce que donc là, on a parlé de l'islam et du catholicisme, mais il y a aussi Joël, cette femme chez qui j'ai résidé à Laon, qui, elle, pratique la religion, une église de maison. C'est-à-dire, c'est chez elle, à l'intérieur de chez elle, qu'un groupe de personnes, de ses amis, se réunissent toutes les
semaines.
Vous
voulez dire que ça arrive très vite dans la conversation ?
Oui, ça arrive.
La religion arrive très vite. La croyance, est-ce que tu crois en quelque chose comme si on était d'un bord, un peu ?
C'est-à-dire, arrive très vite dans la conversation cette espèce d'aveu de croire en quelque chose, parce qu'on ne croit plus en grand-chose d'autre, c'est-à-dire en la réalité de la vie. Moi, le reportage, pour moi, c'est regarder la vie en face. La réalité, elle n'est peut-être pas simple à voir, elle est peut-être dure à voir, mais moi, je suis obsédée par la réalité, c'est mon... Je ne suis pas romancière, je veux décrire la réalité. Mais les personnages que j'ai en face de moi, mes interlocuteurs, veulent s'en défaire de la réalité. Et I don't blame them, je dirais en anglais. C'est pas facile d'être face à la réalité.
Et vous posez une question. Je sais que vous avez habité chez les gens. Tout ça. Est-ce qu'ils ont commencé à vous oublier à un moment donné? Ou alors est-ce qu'ils prenaient des pauses à la maison le soir et qu'ils savaient qu'il y avait une journaliste chez eux?
Non,
ils ont commencé à vous...
Oublier pratiquement tout de suite. Mais ça, je dois dire que c'est à peu près, là aussi, une autre de mes obsessions, c'est-à-dire se faire oublier. Alors, je sais que c'est difficile à croire.
Non, c'est pas facile, mais on ne vous oubliera pas.
Mais je suis pas en reportage avec vous. Je suis en promo et c'est pas pareil. J'explique mon livre. Mais quand je suis en reportage, et vraiment, c'est ça que je faisais aussi en Irak, en Afghanistan et ailleurs, mon seul but, c'est de me faire oublier. C'est-à-dire, c'est que les discussions aient lieu pratiquement comme si je n'étais pas là. Moi, j'ai juste allumé l'allumette. Et puis ensuite, je laisse couler. Ça, c'est ce que je préfère. Mais je dois dire que mon but n'était pas d'écrire un livre sur les gens chez qui j'ai été dormir. Hein. C'est pas j'irai dormir chez vous.
Vous parlez, mais il y a plein d'autres gens.
J'allume l'allumette entière, je laisse couler. Il y a le risque que l'eau qui coule éteigne l'allumette. Vous en êtes consciente.
Oui, mais j'aime prendre des
risques.
Vous vous
rendez compte de la gratuité totale de ce que vous dites.
Est-ce que finalement vous regardez maintenant ce qui est sur les étiquettes des bouteilles d'eau?
Ah, j'ai toujours regardé.
Parce que c'est quelqu'un qui vous habitez qui vous dit il faut regarder parce que c'est important.
Oui, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle fait attention à ce qui est marqué sur les étiquettes parce qu'elle veut absolument ne pas être leurrée sur ce qu'elle consomme. Ça, je trouve ça formidable. J'ai trouvé dans tous mes interlocuteurs une capacité de refus de l'aveuglement énorme, d'humour aussi, d'humour sur soi-même. Ça, j'ai trouvé ça formidable.
Merci beaucoup, Anne Nivas. Et dans quelle France on vit, ça paraît chez Fayard. On y apprend aussi que vous écoutez Radio Nova quand vous êtes sur la route.
Non, c'est-à-dire que Nova, c'est-à-dire par hasard, j'allume la radio d'une voiture de location.
Vous disiez
Nova.
La même chose sur Courtoisie hier et avant-hier sur
non,
France Bleu.
Faux.
Là, c'est écrit. Vous écoutez Yacine Bellatar et Thomas Barbazan.
Non, c'était extraordinaire. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'allume la radio et c'était Nova. Et en plus, c'était une parodie de Jean-Jacques Goldman sur le parti Rothschild. C'était extraordinaire. Alors que j'étais à Évreux, que je venais de quitter un kebab, et le propriétaire du kebab venait de m'expliquer que son fils, 2 ans auparavant, était parti au djihad.
Alors, ça n'est pas une parodie, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman à la gloire du djihad.
Non, on la réécoutera, je ne suis pas sûr.
Merci beaucoup, Anne.
Merci à vous, bonne journée.
7h, 9h, plus près de toi. Neva,
plus près de toi.
Édouard Baer.
Il est 8h, voici Thierry Paret pour le journal de 8h, justement, ça tombe bien, disons.
Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont arrivés en Guyane hier soir. Lors d'un court point de presse à leur arrivée sur place, les deux ministres n'ont pas confirmé les informations des Échos. Selon le quotidien économique, le gouvernement pourrait proposer un pacte pour la Guyane d'un montant de 4 milliards d'euros sur une dizaine d'années, à raison de 400 à 500 millions par an. Les réunions, en tout cas avec les représentants guyanais, vont commencer dès ce matin.
Quels ministres sont là ?
de l'Outre-mer et le ministre de l'Intérieur.
Vous seriez bien capable de me dire leur nom.
Ah oui, Monsieur Feckel et Madame Barrett.
Bah, je suis épaté.
Ah, t'as vu. Pour la troisième soirée consécutive, la communauté chinoise de Paris a manifesté dans les rues de la capitale, devant l'hôtel de ville, cette fois. Toujours pour dénoncer la mort d'un père de famille tué à son domicile, c'était dimanche dernier par un policier de la BAC dans le 19e. Comme pour les deux rassemblements précédents, il y a eu des affrontements avec la police, plutôt violents, et une voiture a été incendiée, plusieurs vitrines ont été brisées. À moins d'un mois de la présidentielle, le bureau du Conseil français du culte musulman adopte une charte de l'imam pour aider les mosquées à lutter contre les discours radicaux. La France compte environ 1800 imams pour partie à temps partiel, non rémunérés, certains itinérants qui sont chargés donc de conduire la prière dans environ 2500 mosquées et salles de prière.
Citez-moi l'imam de votre quartier.
La Commission nationale consultative
ça, vous ne savez plus,
des droits de
l'homme. Tout d'un coup, Thierry Paret, le ministre de l'Intérieur, il sait.
Ceci dit, je ne peux pas non plus citer le curé de, l'église de
Ni le rabbin, ni le pasteur. Bah, bravo.
Je suis bien incapable de faire ça.
Intéressez pas au culte.
La Commission nationale et consultative des droits de l'homme, institution rattachée à Matignon, rend ce jeudi son rapport annuel sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France. Résultat, pour la troisième année consécutive, les Français gagnent en tolérance. Les propos racistes sont jugés de plus en plus intolérables par les Français. Pour autant, les préjugés, les propos et les attitudes racistes n'ont pas disparu. Mettent en garde les auteurs de ce rapport et les améliorations constatées ces dernières années ne doivent pas masquer l'ensemble de la situation. Fin de citation. Benoît Hamon regrette profondément que Jean-Luc Mélenchon refuse de se rallier à lui. Le candidat du PS, à la peine, si l'on en croit les sondages, avait appelé une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon à se ranger derrière lui avant le premier tour de la présidentielle. En meeting hier soir au Havre, le candidat de la France Insoumise a refusé de retirer sa candidature en faveur du candidat du PS. Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, lui, appelle à une rencontre dans les prochains jours entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et bien sûr lui-même.
Il y a trop de noms propres, là. Vous en donnez trop. Les gens
après,
embrouillent un petit
mêmes.
Peu. Moi, j'embrouille. Je ne sais plus si Pierre Laurent, s'il est ministre de l'Intérieur, s'il est imam. Je ne sais plus du tout. J'embrouille tout. Il y a trop de titres, trop de noms, là.
Tiens, un dernier. Richard Burr, c'est le chef de la puissante commission du renseignement du Sénat américain. Il est chargé d'enquêter sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine. Il affirme que Moscou est également activement impliqué dans la campagne présidentielle française. François Hollande a ordonné, c'était début mars, la mobilisation, je cite, de tous les moyens nécessaires de l'État face aux cybermenaces qui pèsent sur cette présidentielle.
Ah ben là, c'est plus facile de se rappeler parce qu'il est là. Ça va, Richard Burr?
Yes, I'm here.
Bah, t'as pas la peine de prendre l'accent, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que j'apprends?
Ben quoi?
Bah, qu'est-ce que t'as fait là sur les Russes?
Bah, j'étais chez moi, et puis après, je suis sorti, et puis j'ai appelé Poutine, et puis j'ai dit ça va?
Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait.
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un enfant de 5 ans et demi enlevé par son père à Clermont-Ferrand. C'est la 20e fois qu'une telle alerte est déclenchée en France. Jusqu'à présent, elle a toujours permis à chaque fois de retrouver les enfants enlevés sains et saufs. Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions féminine de football. Les Parisiennes ont battu le Bayern Munich en quart de finale hier au Parc des Princes. Quart de finale retour 4-0. Qualification également des Lyonnaises qui ont sorti Wolfsburg. Et puis, Mathieu Pigas, patron de la banque Lazare en France.
Le mec qui fait l'échec ici, qu'est-ce qu'il a fait?
Exactement, et accessoirement patron de Nova aussi, a racheté le festival Rock en Seine, l'un des plus grands festivals français, celui qui a lieu. Bah, c'est le dernier festival de la saison.
Alors il est là. Alors Mathieu Pigas, ça a coûté combien cette histoire?
Oh, rien. Un mouchoir.
Mais
quoi.
C'est cadeau pour les gens après.
C'est cadeau, c'est tout cadeau, c'est tout bénef.
Bah voilà, c'est tout ça. C'est bon, Thierry?
Ah, c'est bon,
merci beaucoup. Allez, on reçoit Michel Leb. Bonjour Michel Leb.
Bonjour.
Non.
Bon, la cigale, ça fait.
On est, pardon. Ça va pas.
C'était
non.
Ça ce que faisait Michel Leb.
Oui, bah, il fait autre chose aussi. C'est une œuvre. Vous ne pouvez pas caricaturer le travail, le destin d'un homme au service de la France depuis tant d'années avec de bzz, Michel Leb, c'est une autre vision de
choses. C'est quoi alors?
C'est autre chose.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est une hauteur de vue. Je n'ai pas assez de l'émission pour en parler. Tout de suite, on rejoint Jacques Souvent dans les rues de Toulouse.
Vous avez la pêche, je connais bien la patronne. Oh, oui, j'ai la pêche, le bâtard.
Vous avez la pêche? Vous avez la frite?
Eh ben c'est comme ça, je sais pas, ouais. C'est le sport qui fait ça.
Comment vous faites, monsieur, là? Vous vous levez, puis vous avez la frite, la pêche. Vous avez la patate?
Oui, j'ai la patate, oui.
Vous avez la banane, vous y allez, quoi?
Oui, j'y vais, ouais.
Vous y allez à fond les ballons, on s'en fout.
Voilà, c'est ça. Il dit j'ai de l'énergie.
Go.
Oui, j'ai de l'énergie, ouais.
C'est physique, c'est mental, c'est moral, c'est quoi?
Physique et mental, ouais, les deux.
On y va, on fonce, on est là, tous ensemble, tous.
Voilà, on fonce, on y va.
Go, on a la pêche, on a la frite, on a la patate, mais on n'a pas le melon. Voilà.
On a la patate, on a la frite, on a la pêche.
Puis on a le citron comme un farci, comme un prilo d'Agen.
Ah, je sais pas si on a le citron farci.
On a le pamplemousse, on a la banane.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi les fruits ce matin? On est dans quel fruit, là? On est plutôt agrumes?
On est dans quel fruit?
Bah, bientôt, c'est la saison.
Hein? J'aime bien la banane.
Mais n'ayez pas le melon. Dites-moi, parce que bientôt, c'est la saison des fruits rouges, on va rentrer dans la cerise, on va passer dans la fraise, dans la framboise. Est-ce qu'on sera accompagné ces défis du printemps?
Oui, moi j'aime bien les fruits. Il faut des fruits, hein. C'est les vitamines, les fruits.
Et donc vous y allez, main tendue, prêt à les serrer, les yeux dans les yeux, le sourire à la bouche?
Voilà, c'est ça. Et on ouvre la bouche pour sortir.
Et sur les haleines, on en est où sur les haleines?
Sur les haleines?
Oui, vous êtes où? Vous êtes un petit pain frotté à l'ail le matin, un peu de dentifrice, un fruit?
Voilà, c'est ça, un peu de dentifrice.
Vous êtes un seigneur, monsieur, je vous le dis, moi.
Et c'est un seigneur qui est tatoué pour avoir le goût du café.
Vous êtes un prince.
Il est tatoué, alors vous aimez l'Asie, l'Orient, c'est pas possible, parce que sur le bras gauche, sur le biceps gauche, c'est du japonais, non? Japonais. Sur le biceps droit, c'est du chinois. C'est du chinois.
Est-ce que les gens, parfois, ils vous disent « t'es un prince, t'es un grand, t'es un seigneur » ?
Ouais, je suis un maître, plutôt.
Ah là,
c'est Maître Jacques, il s'appelle. Maître Jacques, voilà, c'est ça.
Maître Jacques, c'est un poème c'est du La Fontaine. Maître Jacques, au bras tatoué, tenait en son bec. Eh ben, cher Maître Jacques, on vous serre la louche.
Le café.
Allez payer un coup à Jacques Souvent dans les rues de Toulouse.
Maître Jacques, c'est Molière.
Ah oui. Et le tatouage dans le cou. Et le tatouage dans le cou, ouais, c'est japonais, ça.
Il y a écrit quoi? Il y a écrit merde à celui qui le lit.
Merde à celui. Non,
non, non, pardon.
Hein? C'est un prénom. Un prénom.
Le prénom de qui?
Prénom féminin.
Oui, mais lequel?
Une ex.
Mais elle avait pas de elle a plus de prénom, comme c'est une ex. Vous l'avez rayé de votre mémoire?
Non.
Mais le coup s'en souvient.
Clémentine.
Mais le coup s'en souvient, voilà, c'est ça.
Bon, bah allez, elle reviendra. Salut, Maître Jacques.
Salut.
Belle
merci.
Journée, belle journée.
Bonne journée, hein.
Qu'est-ce qui se passe, là?
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Yes. Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Alors, dis donc, tu m'as apporté un cadeau, mais c'est une forêt?
Oui, il y a des petites cachettes qu'on doit faire. Par exemple, là, il y a un hibou.
Là, il y a un hibou dans l'arbre. En fait, c'est comme un dessin, mais avec des... C'est quoi? C'est des collages? C'est quoi exactement?
C'est des... Il faut...
Mais c'est toi qui l'as fait?
Oui.
Ah, mais c'est drôlement gentil. Donc, en fait, on voit une forêt, il y a plein d'animaux dedans.
Oui. Hein? Et là, par exemple, il y a des souris cachées.
Ah, mais dis donc, et ça te fait peur, les souris, toi, ou pas?
Non.
T'as déjà vu des souris en vrai?
Oui, mais elles étaient enfermées dans une cage, c'était dans un magasin d'animaux.
Ah oui, mais pas, par exemple, t'es dans une vieille maison, chez ta grand-mère ou quelqu'un, et t'entends un bruit la nuit, tu te lèves et tu vois des petites souris.
Non, par contre, chez nous, on a un hamster. Comme une souris.
Ah oui, mais c'est un copain. C'est pas comme s'il était caché. Est-ce que tu as déjà vu des gros rats? Comme il y a parfois la nuit dans Paris, dans les égouts. Tu n'as jamais vu ça? Non. Est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur ou tu les trouves tous sympas?
Je ne trouve pas tous sympas.
Lesquels t'aimes bien, par exemple?
J'aime bien les chevals.
Oui.
Les lapins.
Oui. Dans les chevals, il y en a que tu connais? Tu as des chevals amis que tu as déjà vus? Ou tu es déjà monté dessus?
Oui, un cheval, mais j'étais en vacances quand je suis montée dessus. C'était chez la marraine de mon frère.
Oui, je vois qui c'est. Mais c'est un cheval c'est un cheval pour les vacances, quoi. Le reste de l'année, vous vous appelez pas, vous envoyez pas des cartes postales?
Non.
Non, vous restez pas en contact, quoi, pour les vacances?
Non.
Ça serait comment, tu penses, une carte postale d'un cheval?
Je sais pas.
Il y aurait des traces de sabots, peut-être? Ou un petit morceau de crinière. Mais tu es venue aussi pour dire un poème, je sais, Louise.
Oui.
Et alors, il faut que tu te rapproches un petit peu parce que... viens. Alors, comment il s'appelle, ce poème?
Le cartable rêveur.
Le cartable rêveur. Eh bien, on va l'écouter quand tu veux, ma chérie.
Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait, qu'il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, et puis d'aller comme vol sur le chemin de l'école, Karl Dvorak.
Ah mais dis donc, c'est le Karl, c'est celui qui a écrit la poésie? Mais tu l'as mis dans la poésie? Tu l'as mis en même temps que la poésie? Moi j'ai cru que... Non mais c'est bien, mais alors, dis-moi, mais alors toi, tu as déjà pensé à cette histoire de cartable, à ce qui fait ton cartable quand t'es pas là ou pas?
Non.
À ton avis, quand tu poses ton cartable, t'es d'accord, tu rentres de l'école, tu le poses?
Oui.
Tu penses qu'il fait quoi?
Il reste comme ça.
Il reste. Tu penses pas que quand la lumière est éteinte, il a sa petite vie à lui, il passe des coups de fil ou il est copain avec d'autres objets?
Non.
Non. Tu penses que par exemple la chaise, quand tu t'en vas, elle fait rien?
Oui.
Et mais si tu laisses une copine, quand tu t'en vas, elle fait quelque chose. Toi, par exemple, quand ta mère te dit bonsoir, tu fais quoi après? Tu te couches tout de suite?
Elle nous dit bonsoir. Et après, je vais aller me brosser les dents. Après, je vais dans mon lit, lire une petite histoire.
Voilà. Mais ça, c'est ta petite vie secrète à toi. Et dis donc, alors, je sais que tu sais chanter des chansons. Tu as une chanson de Loane et une de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. On essaye un petit peu de chanter? Tiens, là, on allait. Avec Tito? Tito qui travaillait avec un monsieur qui s'appelait Jacques Martin. Qui
mais je ne sais pas très bien Le Moulin de mon cœur.
Tu préfères... on essaye Le Moulin de mon cœur, puis sinon on fait Jour numéro 1 de Loane, qui est la chanson préférée d'Atmen. Alors,
Comme une pierre de l'Angette
dans l'eau vive
d'un ruisseau
laisse
derrière elle des millions de ronds dans l'eau,
comme un manège
de lune,
avec ses chevaux,
une étoile,
comme un anneau de Saturne,
un ballon de carnaval.
Tu fais tourner de ton nom tous les
de mon cœur.
Mais, oh, mais c'est qui joue faux, Tito? Alors forcément, c'est pas facile. Hein. C'est, hein, tu y joues un petit peu faux, il t'a déconcentré. Hein, c'est ça, ma chérie? Si, si. Il faut apprendre à dire un petit peu
c'est
mal
le
avec
jour
ton...
un, le jour
voilà, ensuite,
on,
pendant la publicité, nous on chantera jour 1 avec Loane qui nous
Louise
rejoint.
Louise la petite que Michel Legrand. Bon,
merci Louise, c'était super. T'as bien aimé ou c'était bien de dire le poème à la radio? T'étais contente?
Oui.
Très bien. Et Atmen, tu trouves sympa?
Oui.
Ah bon. Ah merci. Bah,
bonne journée à tous.
Premier rayon de soleil de la journée.
Il est interdit de salarier un homme.
Rudy, elle est bien cette chanson, c'est de qui?
Les Villars. Et alors c'est vraiment, ils sont très peu connus, ils sont un peu éparpillés en Bretagne. Je leur ai proposé de venir ici.
Mais oui, il faudrait qu'ils viennent, c'est très bien.
Alors le live n'est pas du tout prêt, ils sont en train d'essayer de le monter.
Ben oui, il faut le monter. Parce que Atmen qui a un live qui est tout prêt, moi je n'en veux pas.
Mais ça fait 20 ans que tu n'en veux pas.
Et dis-moi, il y a qui aujourd'hui? Il y a formidable le chanteur. Il y a Erwan, il y a plein de gens qui sont en train d'arriver là au studio, au Café Nova pour écouter Erwan. Alors, mais là, on écoute avec grand plaisir Marie Missé. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Alors là, le générique, il est fait par Joël Dupuche, l'ostréiculteur d'Arcachon, du Cap Ferret.
Qui a des pignasses aussi.
Et voilà. Je me suis demandé, quand c'est pas moi, est-ce que c'est quand même ce générique?
Non, pas du tout, mais c'est toujours vous, même quand c'est pas vous.
Très bien. Évidemment, aujourd'hui, ce qui occupe les journaux, c'est le ralliement de Valls, Macron et concomitamment l'explosion du PS. Le Figaro, Valls rallie Macron et plonge le PS dans le chaos. On rit quand même une seconde en le lisant, quand Cambadélis, finaux, ayant vu que ça fonctionnait pour d'autres, impute les déboires du PS à la presse, qui veut faire du feuilleton à tout prix. Encore elle, cette presse satanée fossoyeuse. On lit aussi que ce soutien de Valls à Macron redonne, je cite, le sourire au soutien de Fillon. On ne pouvait rêver mieux, s'enchante-t-il. La Croix, quand elle demande la fin d'un parti, avec un point d'interrogation, le Parisien a les mêmes éléments de langage que le Figaro, le PS en plein chaos, tandis que Libé présente Valls en monsieur déloyal, et tout en reconnaissant la gravité de la situation, ne peut s'empêcher, Libé oblige, une kyrielle de jeux de mots, et on balance une valse sans hésitation, un manuel du reniement, un remue-ménage de printemps au PS, ça enchaîne, l'amour du calembour s'exprime donc haut et fort ce matin dans Libé, qui regrette par ailleurs la valeur de la parole des hommes politiques soit encore une fois dévaluée, qui se dit, on se demande pourquoi les électeurs n'y croient plus, entre le père la vertu qui se révèle Tartuffe en complet sur mesure, le FN anticorruption plongé jusqu'au cou dans des histoires similaires à celles qu'il dénonce, et Valls, cochon qui s'en dédie. On est dans la post-vérité, la post-loyauté et peut-être la post-démocratie. Cette atmosphère.
Beaucoup de postes qui ferment, on en reviendra juste après.
En plus.
Excellent jeu de mots, bonjour à tous.
Ah bah vous auriez votre place à Libération. Edouard. De chaos qui s'annonce, se précise dans le Figaro. On y retourne donc. Noël Lindemann, étant engagé dans la primaire socialiste, se figure un valse.
Marie-Noël.
Plus, Marie-Noël, pardon, oui. Un valse plus vicieux encore. Pas seulement fossoyeur du PS, pas seulement fossoyeur de Macron, qui l'handicape plus qu'il n'aide, mais carrément croque-mort. Son idée, d'après elle, c'est de fracasser la gauche et d'en récupérer un morceau. Autrement dit, la stratégie du chaos ou, comme on aime le dire en langage idiomatique, la stratégie de la terre brûlée. Le problème, et ça s'applique aussi en agriculture, c'est qu'à force de brûler les terres, elles finissent par être stériles et ne plus rien donner. On les rend inutilisable pour tout le monde. Par un transport de pensée un peu mystérieux, cette récurrence du mot « chaos » dans la presse ce matin m'a fait penser à un article de Slate.fr publié hier. Il reprenait un article du New Yorker. On y lisait qu'en Suède, de jeunes réfugiés en voie d'expulsion tombent mystérieusement, les uns après les autres, dans le coma. Un vrai coma, sans aucune cause médicale. Les psychiatres qui se sont penchés sur ces mineurs parlent du syndrome de la résignation. Ça ne touche que les enfants. Le traitement recommandé, c'est l'obtention de l'asile, d'après le travail du sociologue Aaron Antonovsky, qui explique que la santé mentale dépend d'un certain sentiment de cohérence au milieu du chaos, d'un peu d'ordre dans des vies donc devenues trop chaotiques. Et ce n'est pas la première fois que des réfugiés traumatisés développent des maladies mystérieuses. On évoque le cas de réfugiés laotiens aux États-Unis en bonne santé qui vont se coucher en pleurant et ne se réveillent plus, ou de femmes cambodgiennes qui, témoins de torture et de sévices, ont tout simplement perdu la vue. Les réactions du corps ont parfois une certaine logique. Les enfants apathiques qui tombent dans le coma en Suède incarnent des blessures psychiques de manière littérale. Je lis Slate. Ils se sentent complètement impuissants et deviennent donc complètement impuissants. Mais de la même manière que plusieurs enfants en Suède qui, pris en charge obtenant l'asile, sortent peu à peu du coma, le chaos porte quand même intrinsèquement la possibilité du renouveau. Dans son supplément du jour spécial 20, on apprend qu'en 2016, pour
spécial
les...
20
spécial 20.
La semaine qui se réveille. Ouais. C'était vous la blague d'Isis La Poste tout à l'heure, oui, vous n'avez pas le micro ouvert. C'était une bonne idée de l'avoir fermé. Il ne faut pas entendre ces mauvais jeux de mots.
Non mais c'était un vrai... Parce qu'il spécial a travaillé 20. À La Poste,
écoute,
d'Isis La Peste.
Écoute le spécial 20.
On apprend dans Le Monde qu'en 2016, pour les vignerons, l'année fut très dure. Les vignobles sont passés par toutes les émotions, le rire, les larmes, la douleur, le bonheur, un climat hostile, de la grêle, le gel, la pluie, les maladies. Un vigneron bourguignon résume, on a tout eu comme on dit, pain, beurre, jambon, cornichon et la petite serviette. Au bout du compte, et même s'il y aura en Bourgogne moins de vin en 2016, le cru est absolument exceptionnel. Ce vin sorti des eaux s'annonce excellent. 2016, un cru miraculeux, dit-on à Bordeaux. La différence entre les terroirs s'affirme, le goût standardisé s'estompe. Bref, on trouve l'espoir là où on peut, et je ne serai pas la première à le chercher dans un verre de rouge.
Je vous remercie. Merci. Non, non, attendez, je voudrais l'annoncer. On va pas le mettre en vrai, Armel, vous êtes fou. Je voudrais juste qu'il faut faire plaisir un petit peu aux enfants de temps en temps. Ceux qui ont des enfants,
parce qu'on peut les perdre.
Voilà, j'ai peur qu'on perde l'objectif. Et puis, il y a une police du bon goût qui nous oblige à passer avec des bons morceaux. Je vous propose d'écouter 15 secondes de la chanson suivante. Rapprochez vos enfants de la radio. Amour numéro 1. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2. Une suite à l'hôtel. Supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit. T'as dansé sur mon âme et ça n'est plus permis. 9 jours, la vie, c'est du velours. Et l'éternité, c'est une nécessité. Voilà.
J'aime bien parce qu'il y a un côté Delon avec Dalida.
Mais
incroyable.
Oui, mais j'ai beaucoup. Oui, on fait ça. Rudy, vous avez programmé, Loan ? Il y a toujours un Nova,
oui,
le
vrai.
Bon goût. Ça, c'est pas Nova. Ça, c'est Nova. Ça, non.
Dimanche prochain.
Ah, mais c'est. Mais on n'est pas là.
On n'est pas
là.
Alors, écoutez, reprenons cette émission.
C'est vrai que ça serait
bien. Armel, est-ce que vous avez de la pub ?
Oui, j'en ai plein.
Est-ce que ça vous ferait plaisir de la passer maintenant ?
Oui, j'adorerais. J'attends que ça depuis
très bien.
Tout à l'heure.
Pendant la pub, on reçoit Loan. Il y a tout le temps.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Nilsson avec Everybody's Talking sur Nova.
Oui, qui est la BO de Macadam Cowboy.
Bah quand même. Enfin, c'est...
Tu as dit Forrest Gump.
Quoi ?
Ah oui, bah non, tu l'as dit. Ah bah, avec Dustin Hoffman et John Voight, Oscar de la meilleure BO en 69.
Si tu me laisses pas finir la phrase, j'allais le dire.
Dis donc. Non, mais je pars une seconde à aller saluer l'artiste qui fait à la V1.
Oui,
discuter au lieu de lancer le journal.
Mais je suis ton baroin. Dès que tu partiras, je prendrai...
Ça me fait rêver. Merci.
Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont arrivés en Guyane hier soir lors d'un court point de presse. Mathias Fekl et Erika Barecht n'ont pas confirmé les infos des Échos. Selon le quotidien économique, le gouvernement pourrait proposer un pacte pour la Guyane d'un montant de 4 milliards d'euros sur une dizaine d'années, à raison de 400 à 500 millions par an. Pour la troisième soirée consécutive, la communauté chinoise de Paris a manifesté dans les rues de la capitale, en l'occurrence devant l'hôtel de ville, cette fois toujours pour dénoncer la mort de ce père de famille tué à son domicile dimanche dernier par un policier de la BAC. Comme pour les deux précédents rassemblements, il y a eu des affrontements violents avec la police. Une voiture a été incendiée, des vitrines ont été brisées. À un mois de la présidentielle, le bureau du Conseil français du culte musulman adopte une charte de l'imam pour aider les mosquées à lutter contre les discours radicaux. La France compte environ 1800 imams chargés de conduire la prière dans environ 2500 mosquées ou salles de prière. La Commission nationale et consultative des droits de l'homme, institution rattachée à Matignon, rend son rapport annuel sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France ce jeudi. Résultat, pour la troisième année consécutive, les Français gagnent en tolérance. Les propos racistes sont jugés de plus en plus intolérables par les Français. Pour autant, les préjugés, les propos et les attitudes racistes n'ont pas disparu, mettent en garde les auteurs du rapport. Et les améliorations constatées ces dernières années ne doivent pas masquer l'ensemble de la situation. Fin de citation. Benoît Hamon regrette profondément que Jean-Luc Mélenchon refuse de se rallier à lui. Le candidat du PS, à la peine, si l'on en croit les sondages, avait appelé une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon à se ranger derrière lui avant le premier tour de la présidentielle. En meeting hier soir au Havre, le candidat de la France Insoumise a refusé de retirer sa candidature en faveur du candidat du PS. Et puis le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, appelle lui à une rencontre dans les prochains jours avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Richard Burr, le chef de la puissante commission du renseignement du Sénat américain, chargé d'enquêter sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine, affirme que Moscou est également activement impliqué dans la campagne électorale en France. Les sénateurs argentins ont adopté une loi autorisant l'usage thérapeutique d'huile de cannabis, mais ont maintenu l'interdiction de cultiver la plante. La loi permet l'importation d'huile de cannabis pour les patients ayant des prescriptions médicales. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un enfant de 5 ans et demi enlevé par son père à Clermont-Ferrand. C'est la 20e fois qu'une telle alerte est déclenchée en France. Elle a permis à chaque fois de retrouver les enfants enlevés sains et saufs. L'équipe féminine du PSG va-t-elle entrer dans l'histoire comme l'équipe masculine? Réponse fin avril. Les Parisiennes ont sorti le Bayern de Munich hier soir 4-0 au Parc des Princes en quart de finale. On parle football bien sûr. Elles affronteront Barcelone en demi. Qualification également des Lyonnaises qui ont sorti les Allemands de Wolfsburg. Et puis Mathieu Pigas, patron de la Banque Lazare et accessoirement boss de Nova, a racheté le festival Rock en Seine, l'un des plus grands festivals français.
Mais c'est de l'info ou on vous a dit de le dire ça?
On m'a dit de le dire. C'est publié reportage, moi, parce que limite c'est... Non, c'est de l'info, oui, bien sûr.
D'accord, parce que moi j'ai un copain qui m'envoie... Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on vous envoie des trucs? Il m'envoie ça.
Ah, tes copains ne m'envoient pas de message à moi.
Non, mais il m'envoie des petites vidéos, mais j'essaie de la passer.
C'est difficile.
Il m'envoie des chansons de Pierre Perret, c'est boulot.
Qui donc?
Je voulais vous la passer, mais je ne sais pas le faire marcher, mon truc. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, peut-être pas. La météo de Tito.
Aujourd'hui, c'est la fête des Amédées. Des âmes, des Amadeux, des Amadieux, des Amadei, des Amadeus. Allez, allez, oh! Allez, allez, oh! Allez, 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 laissez-la, j'ai beau! Allez, 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 laissez-la, j'ai beau! Allez, 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 laissez-la, j'ai beau! Alors, les températures sont... Il fait soleil dans toute la France! Ça, c'est chouette! À Clermont-Ferrand, de 10 à 23. À Avignon, de 7 à 23. À Corté, de 7 à 21. À Évreux, de 12 à 22. Metz, 9 à 21. Nantes, de 12 à 22. Poitiers, de 12 à 22. Saint-Étienne, de 9 à 21. Vienne, de 10 à 21. Paris, de 9 à 22. Et Cayenne, de 26 à 29. Allez, allez, oh! Allez, 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 oh! Allez, 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 c'est la Gémeaux. Allez, 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 c'est la Gémeaux. Voilà. Allez, 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 c'est la Gémeaux.
Merci, merci Tito. Voilà, c'est ça que je reçois sur mon téléphone.
Si vous voyez cette stèle, dites-lui, mes amis, combien je suis fou d'elle.
Voilà,
c'est très beau.
C'est joli, c'est Pierre Perret. Arrêtez, soyez un peu Nova, s'il vous plaît. Jacques Souvent dans les rues de Toulouse.
C'est sympa cette météo de Tito.
Ouais, c'est super sympa, ouais. Ça apporte de la joie, c'est bien.
C'est la météo flamenco. Et Aurore, vous me parliez de ce grand événement là qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps.
Madame Fiançailles, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça s'est passé assez drôlement, en fait, on peut dire, puisqu'il m'a fait la demande en fait le matin de mon anniversaire entre mes deux tartines de Nutella.
On vous a demandé en mariage récemment, Aurore?
Ben, pas vraiment en mariage, c'était en fiançailles, mais bon.
Mais quelqu'un de votre connaissance? Quelqu'un que vous connaissiez?
Oui, heureusement. C'était au petit déjeuner en famille, donc oui, quand même.
Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là?
Ben, on fêtait mon anniversaire.
Mais vous fêtez l'anniversaire au petit déjeuner?
Ouais, carrément. Nous, on commence dès le matin.
Ah oui, mais là, tout ça, le monde va trop vite, là. Je ne suis pas prêt à entendre ça. Donc, il y avait qui à ce petit déjeuner d'anniversaire familial?
Il y avait mes parents, mon
alors, petit frère. Alors, ça va beaucoup trop vite, pardon, Aurore. Vos parents, on est sur quel prénom?
Moi, c'est Clara, moi.
C'est Clara, c'est plutôt maman, plutôt papa? Moi, je ne sais pas, je ne juge personne. Clara, non, c'est maman?
Non, Clara, c'est moi, en fait.
Oui. Et Aurore, c'est qui?
Aurore, je ne sais pas qui c'est.
Voilà. Ok, donc Clara, c'est vous. Donc là, j'ai une personne.
C'est moi, oui.
On a maman, qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Nadège.
On vérifiera. Nadège, très bien. Papa est sur quel prénom?
Pascal.
Pascal et Nadège sont là. On est autour d'un café, d'un thé, chacun a sa boisson différente?
Exactement, ouais.
Sur la différence ou sur la même boisson?
Non, sur la différence. Les hommes sont au café, les femmes au thé.
Un café, voilà, on est dans une France traditionnelle. Café, thé, on est sur... Donc là, il y a des tartines, c'est plus roboratif que ça. Il y a du jambon, il y a quoi au petit déjeuner chez vous?
Non, c'est plutôt viennoiserie, on va dire.
Alors donc, quelqu'un est allé les chercher parce que les viennoiseries, ça ne pousse pas comme ça.
Ouais, c'est mon papa qui va le chercher à la boulangerie.
Donc, Pascal revient de la boulangerie, les croissants plein les bras, comme tonton Cristobal qui est de retour. Nadège est là, elle a peut-être préparé le thé. Est-ce que c'est un café fait maison ou c'est des trucs avec les capsules?
Ah non, c'est les capsules.
C'est les capsules. Et donc, tout ça part à l'industrie, ça part sur la Suisse, machin, l'espresso, Nestlé, qui pendant ce temps-là est en train de piller en Amazonie de la déforestation. Bon, enfin, vous n'y êtes pour rien, je ne vous accuse pas. Donc, Clara, Nadège et Pascal sont là, les croissants sont là, la forêt amazonienne est foutue en l'air. Et là, le fiancé s'appelle comment?
Il s'appelle Hubert.
Hubert, est-ce qu'il a dormi ici?
Ah oui.
Dans quelle chambre?
Avec moi, dans ma chambre.
Mais qu'est-ce que c'est?
Non, c'est plus des fiançailles. Bon, ok, admettons, on est très tolérants. Et Hubert vous dit devant tout le monde, entre le croissant, la poire et le fromage,
il m'a posé le petit coffret et il m'a dit voilà.
Un petit coffret à quoi? À croissant?
Avec la bague à l'intérieur.
Oh,
c'est Hubert.
Et là, il vous dit voilà.
Il peut.
Quelle est la phrase de fiançailles?
Alors, honnêtement, il n'a pas prononcé cette phrase de fiançailles.
Il a dit, écoute, bon.
Il a dit, bon, ben voilà, merde, mais bon.
Et il a dit, bon, ben voilà, merde. Mais là, on ne peut pas dire oui à cette proposition.
Non, c'est en fait, j'ai voulu blaguer parce que comme j'ai reconnu le format du coffret, j'ai dit, ah ben tu me demandes un mariage. Et du coup, il a été pris de court et il m'a dit, ben non, mais c'est presque ça, c'est juste une demande en fiançailles.
Vous avez parlé
voilà.
Trop vite, vous avez parlé trop vite. Ben écoutez, je vous souhaite d'heureuses fiançailles et puis.
C'est gentil, merci.
Et puis ça va avec un gros bisou. Je vais vous le dire franchement, je ne vais pas vous mentir plus longtemps. Et puis, à bientôt.
Oui, peut-être.
Au revoir, Tati Daniel. Au revoir. Salut. C'est
en avant, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Alors, Thomas Ribi, journaliste, mannequin, oui. Chanteur
apparemment.
Auquel on s'adresse ouais. Aujourd'hui.
Eh bien, je ne sais pas.
Vous avez non, Thomas, je sais qu'en ce moment, vous vous intéressez un peu à ce qui se passe dans les musées lorsqu'ils ferment, lorsque le gardien remet sa petite casquette au vestiaire, lorsque le dernier visiteur s'en va, lorsque le dernier flash a crépité, la vie des musées la nuit. Que s'y passe-t-il et la vie des œuvres d'art?
Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans un musée en particulier, le musée de Bode à Berlin, lundi soir. Et je vais vous raconter l'histoire d'une œuvre d'art. Je ne parle pas de la grosse pièce en or qui a été volée, mais de la manière dont elle a été volée, c'est vraiment
déjà, on ne savait pas, moi je ne savais pas, une grosse pièce en or a été volée.
Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé.
Gros bisous à tous.
À 3h20 du matin, des cambrioleurs posent une longue échelle sur le mur du musée dans le centre-ville de Berlin. L'heure n'a pas été choisie au hasard. Le seul endroit où on peut poser une échelle se trouve sur les rails qui longent le musée. Or, les trains arrêtent de rouler précisément à ce moment-là pendant 2h30 toutes les nuits. Les voleurs grimpent sur l'échelle. Jusqu'à une fenêtre qui se trouve à plus de 3 mètres du sol. Ils cassent la vitre, ils entrent dans le musée et se rendent directement à l'étage du dessous, là où est entreposée la fameuse grosse pièce en or. Elle est protégée par un caisson qui résiste aux balles, mais ils parviennent à le casser, on ne sait pas encore exactement comment ils ont fait. Puis, ils s'emparent de la pièce. C'est une pièce qui mesure 53 cm de diamètre, qui pèse 100 kg et qui vaut 4 millions d'euros. C'est une grosse pièce.
On demandera à Tito où il était ce soir-là, juste après. Oui, oui.
Grosse pièce.
D'un côté de la pièce est gravé le visage de la reine Elisabeth. Pourquoi? Parce que c'est une pièce canadienne. De l'autre côté de la pièce est gravée une feuille d'érable. Pourquoi? Parce que c'est une pièce canadienne. Les voleurs s'emparent de la grosse pièce.
Pourquoi?
Et
Parce qu'elle vaut 4 millions d'euros.
Parce qu'elle vaut 4 millions d'euros.
Parce grosse pièce.
Les voleurs s'emparent de la grosse pièce et ils refont le chemin inverse. Et là, je vous laisse imaginer la scène. Comment fait-on pour trimballer une grosse pièce en or de 100 kilos ? Il n'y a pas de prise sur une pièce.
On ne m'engueule pas.
Ils doivent remonter. Mais je vous explique.
Mais
vous
oui, vous pas, vous pas.
C'est pour ça que je vous explique. Oui, c'est
donc,
une œuvre
d'art. 100 kilos. C'est une très
100 kilos.
Pièce.
Ils l'attrapent.
4 millions
d'euros. Il faut remonter un étage. Il faut repasser par une fenêtre. On imagine même qu'il y a des petits bouts de fenêtre, vu qu'elle a été cassée. Vous imaginez, avec 100 kilos dans les mains, il faut redescendre.
40 000 euros du kilo. Hein. 100 kilos, 4 millions, ça fait 40 000 euros du kilo.
Ça, c'est impressionnant. Et ensuite, il faut redescendre l'échelle avec donc cette fameuse pièce de 100 kilos. J'ajoute que l'échelle n'a pas été retrouvée. Ça veut dire qu'ils ont soit embarqué l'échelle avec eux, soit ils ont caché l'échelle quelque part.
Soit ils se sont accrochés au pinceau. Oui.
Mon Dieu. Mon Dieu. Pardon. Bref, comment les cambrioleurs ont fait, c'est un mystère que les enquêteurs n'arrivent pas à résoudre pour l'instant. Et cela confirme la fameuse théorie selon laquelle les musées sont les derniers terrains de jeu des artistes du cambriolage. Ah. Et j'en profite, je précise que cambrioler c'est mal, on peut quand même saluer du travail bien fait.
Oui,
bref,
c'est bien de le dire, j'en profite. Ne faites pas ça chez vous.
Ne volez pas, mais les mecs là, l'histoire du...
Ils l'ont peut-être laissé dans le musée, ils le font souvent.
Dis donc, t'as encore regardé la Panthère Rose hier soir, tes vieux Peter Sellers.
Je me demande si c'est pas dans Tintin.
Oui, ça. Aussi.
Et le rail, ils l'ont posé à côté de la voie de chemin de fer.
Il peut finir, monsieur Zribi.
Non, mais moi, je suis assez d'accord avec cette théorie. Je trouve que la théorie est pas mal.
C'est pas mal.
Bref, je voudrais en profiter pour vous raconter l'histoire du plus grand artiste du cambriolage de musée, qui s'appelle Stéphane Bretwieser. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. C'est un Français de 45 ans. C'est sans doute le plus grand voleur d'œuvres d'art de toute l'histoire. Il a une particularité, c'est que lui n'a pas volé pour l'argent, mais pour l'amour de l'art. Son grand-oncle était Robert Bretwieser, un peintre alsacien. Petit, il a baigné dans une ambiance artistique au milieu de tableaux, de sculptures, et il a toujours rêvé d'avoir sa propre collection d'art, mais il était serveur, gagnait pas suffisamment d'argent pour avoir sa collection, et donc, à l'âge de 20 ans, il a commencé à voler. Sa méthode, il entrait dans les musées ou dans les salles de vente, pendant que sa petite amie faisait le guet, il découpait rapidement les toiles avec un cutter, il les enroulait, puis il les cachait dans une poche secrète de son manteau. Il a fait ça pendant 8 ans, entre 1993 et 2001, sans être identifié. Il a fini par être retrouvé, arrêté, emprisonné, puis relâché après 3 ans derrière les barreaux. Mais très vite, il n'a pas pu s'empêcher de replonger. Il s'est mis à voler de nouveau. Impossible de s'arrêter. Des tableaux, mais aussi des vases, des armes anciennes, des meubles. Et un jour, et de la vaisselle d'ailleurs,
oui,
c'est vrai.
Oui, et c'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie, monsieur Guy.
Oui.
Et un jour, donc, la mère de... Oui. La mère de ce monsieur, qui s'appelle Mireille Bretwieser, a pris peur, elle a paniqué, et pour lui empêcher de retourner en prison, elle a décidé de se débarrasser du butin qu'il cachait chez elle. Il y avait toutes ses œuvres d'art chez lui, vu qu'il ne revendait rien. Donc, elle se dirige vers le canal Rhin-Rhône, et elle balance tout ce qui traîne. Des nombreuses œuvres d'art, des tables, donc il y a beaucoup de sculptures et des choses qui ont été retrouvées après, mais il y avait aussi des tableaux qui ont été définitivement...
Ben oui, oui, donc c'est pas que pour la bourdeur. Oui.
Et donc, il y avait notamment un boucher, un Bruegel et un Watteau. Ça protège pas son fils, il est arrêté à nouveau, encore condamné en 2013 à 3 ans de prison. En tout, il a reconnu avoir volé 245 œuvres d'art pendant sa carrière. Il est sorti de prison en 2015, et là, on imagine qu'il a décidé de ne plus voler de tableaux, mais on ne se refait pas, je présume. Il a fini par se faire attraper quelques mois plus tard, mais cette fois-ci, la police l'a arrêté pour le vol de t-shirts, de têtes d'oreiller, d'un pantalon, de plusieurs robes, d'une ceinture, de 5 DVD et d'un livre. Un maigre butin qui fait un peu réfléchir. Tout le monde vieillit, les voleurs aussi. En tout cas, cette fois-ci, il n'a été condamné qu'à de la prison avec sursis.
T-shirt mouillé. Merci beaucoup.
Avec joie.
Thomas, Tito, comment vous y prendriez, vous, pour voler dans un musée ?
Déjà, il est malin, en premier. Ensuite, les voleurs ont souvent des idées que n'auront pas les policiers ou que n'auront pas les autres personnes. Alors, l'échelle, c'est une bonne idée. La voie ferrée aussi, casser la vitre aussi. Et après, pour remonter la pièce, eh bien, soit ils ont des manières technologiques hyper poussées ou bien ils sont à plusieurs et ils s'y mettent de vaillance.
C'est peut-être eux qui étaient à l'île de Pâques et qui ont fait les géants déjà à l'époque. Ouais. Voilà, on est bien, on est droit dans nos bottes.
Mais pour vous l'amuser, il faut être conservateur. Hein,
d'autres, moi, très bon, excellent. Oui.
On peut la cacher dans un très gros jukebox.
Oui, voilà. Merci beaucoup, Armel. Nous aussi, on va faire un casse, on va envoyer la pub.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi, ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Voilà, je suis dans le Grand Café Nova. Il y a beaucoup de monde ce matin. Est-ce qu'on peut vous entendre ? Ouais ! J'ai rêvé. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça. J'aime bien les mecs quand ils disent hey, « Bienvenue Tourcoing !» Et là-dessus, les gens disent « Non, non, on est à Nantes !» Mais ils sont contents. Voilà, c'est comme Johnny Hallyday. Erwan, bonjour.
Bonjour.
Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien.
Ça se passe très bien.
Qu'est-ce que vous pensez de cette interview? Elle est bien menée pour le moment?
Pour le moment, elle est parfaite. Elle est très curling.
Vous placez le titre de votre morceau.
Subrestissement dans la conversation, le nom de mon album qui sort demain.
Vous vous attendiez à ce genre de questions que je vous pose là?
Elle était un peu piège, mais je m'y suis fait. J'ai réussi à pirouetter.
Oui, vous avez slalomé. Vous n'avez pas pris la piste facile, la bleue, les marmottes. Vous êtes passé par l'épervier, qui est une rouge qui est fermée à cette saison. Erwan, tout un univers finalement, plus qu'un chanteur.
C'est vrai, c'est un univers très attachant.
C'est vrai. Moi, j'ai été voir beaucoup de vos clips et écouter vos chansons, et non pas le contraire. Et je suis très frappé le nombre de références, cet esprit, cette verve parisienne dans le sens bas-fond, dans le sens la poésie qui se cache derrière la porte du placard.
La fleur dans le caniveau.
Voilà. Vous savez trouver une fleur là où les autres voient juste du caniveau.
Je pense que c'est ça. Oui.
Vous voyez la beauté des choses et vous la retranscrivez.
J'essaye, Edouard.
Curling, ça sort demain, mais ça n'est pas que demain. Contrairement au cinéma où ça repart le lendemain, ça va rester dans les bacs.
Oui.
Est-ce que vous voulez votre présentation par Rudy?
Ah, j'aimerais beaucoup, oui.
Il est bon, je peux vous dire.
Bonjour, Erwan. Bonjour. Alors, justement, sur la pochette
de
son
déjà,
nouvel
bonjour,
album... C'est
sympa déjà de dire bonjour, t'es pas obligé.
Sur la pochette de son nouvel album Curling, Erwan est là, bien détendu comme on le connaît, une marguerite à la bouche, un verre de pif à sa portée, allongé, jambes dépliées, lové sur un canapé rouge, avec la probable femme de ses rêves à ses côtés. La tenue est elle aussi élégante, la gabardine verte nous ramène à l'élégance de Marielle, le je m'en foutisme à celui du Dude Big Lebowski et sa gouaille inimitable à celle de Gabin dans le Baron de Louise. Tous aux abris, Erwan est de retour en solo en mode curling, mais c'est quoi le curling, camarade? Le curling, c'est la solution adopté par Erwan pour arriver à vivre dans son époque. Le curling, c'est pas nier le foutoir dans lequel nous sommes, mais c'est justement se servir de sa lucidité pour pouvoir se détacher de toute l'hystérie ambiante. Alors Erwan revient avec son rap inclassable, sa verve de Titi Parigo qui parle au-delà de la capitale et ses métaphores aussi poétiques que caustiques qui arrivent à lui faire rentrer un homard breton dans un plat à tagine berbère. Faites l'amour, c'est la guerre, c'est ça être curling. Erwan, tu connais bien cette radio. Ici, c'est pas la guerre, mais on va quand même faire un peu l'amour.
Mais bravo, bravo à Rudy.
Merci, Edouard.
Rudy qui a son public.
Je suis très ému, là.
Oui. Alors évidemment, ça aurait été, vous auriez préféré qu'on vous dise des mots aimables plutôt que ça, quand même, non? C'est très
agressif.
Non,
je suis très ému, je ne sais plus quoi dire.
Et bien alors vous allez chanter, comme on dit à la télévision.
Le premier titre,
Erwan,
curling,
merci, nous vous aimons beaucoup. Approchez-vous du... Ah ben non, le micro vous l'avez à la main, donc ne vous approchez pas. Allez, c'est Erwan ici en direct.
C'est curling.
Voilà, je viens de faire 4 mètres à pied. On y va. Accompagné par qui?
Par Tom Fire.
Par Tom Fire.
Je l'aime beaucoup.
Si, il est bien.
Il y a des ultimes réglages là, parce qu'il y a de la technologie au service d'Erwan. C'est parti, en direct ici en live.
T'épouses la street, la tête dans le whip.
Erwan, la feinte, décontraction et toute la classe d'Erwan.
Erwan qui sera en concert aux Étoiles le 25 avril prochain à Paris.
Voilà, merci beaucoup, c'est terminé. Au plaisir de vous retrouver lundi. Très très belle journée, voici les 30 glorieuses. Au revoir les amis.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.